Merci de nous suivre sur Radio Orient. Il est midi, le point de l'actualité avec vous, Nadia Pelcher. Au sommaire de cette édition, Israël promet une réouverture limitée du point de passage de Rafah sous inspection. Aucun calendrier n'a été avancé malgré les pressions américaines. Réseaux sociaux en France vers une interdiction au moins de 15 ans. Un vote est attendu ce lundi à l'Assemblée avant un examen au Sénat mi-février. Le dossier du jour consacré à la discrimination raciale dans l'accès au logement, révélé par un testing dévoilé hier par SOS Racisme. Vous entendrez Zélie Errant, responsable juridique de l'association, au micro de François-Xavier de Calonne. Bonjour à tous. Au Proche-Orient, Israël annonce une réouverture limitée du poste frontière de Rafah entre Gaza et l'Égypte, sans préciser de date. La réouverture serait réservée aux piétons et soumise à un mécanisme d'inspection israélien dans le cadre du plan en 20 points de Donald Trump. Rafah, point d'entrée crucial pour l'aide humanitaire, reste fermé malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre. Israël liant l'ouverture au dossier du dernier otage retenu à Gaza. Selon des médias israéliens, des émissaires américains poussent à réouvrir sans attendre, tandis que l'armée essaie d'y mener une opération ciblée pour retrouver le corps de l'otage. L'UNRWA affirme que son siège à Jérusalem-Est, déjà partiellement démoli, a été incendié hier sans préciser l'origine du feu. L'agence accuse les autorités israéliennes d'avoir pris d'assaut et détruit le site et dénonce une tentative de démanteler le statut des réfugiés palestiniens. L'ONU rappelle que les installations onusiennes bénéficient de privilèges et d'immunité. Au Liban, des frappes israéliennes sur le sud du pays ont fait 2 morts dimanche, selon le ministère libanais de la Santé. L'armée israélienne dit avoir visé un site de fabrication d'armes et des infrastructures militaires du Hezbollah dans le sud et dans la Berka. Ces raids se poursuivent malgré la trêve de novembre 2024. Plus de 350 morts sont recensés depuis le cessez-le-feu, selon des chiffres du ministère. En Syrie, l'ONU a acheminé un premier convoi d'aide de vers Kobané via un corridor humanitaire ouvert alors que la ville kurde est encerclée par l'armée. La trêve entre Damas et les forces kurdes est prolongée de 15 jours, mais des affrontements et accusations de violations se poursuivent autour de la zone. Sur fond de crise humanitaire, Washington accélère aussi le transfert de détenus de Daesh vers l'Irak, craignant des failles de sécurité. Les États-Unis mettent en garde l'Irak contre tout rapprochement avec l'Iran, alors que Nouri al-Maliki, soutenu par des partis chiites proches de Téhéran, pourrait revenir au pouvoir. Marco Rubio affirme qu'un gouvernement contrôlé par l'Iran ne peut pas défendre les intérêts irakiens ni tenir le pays à l'écart des conflits régionaux. Washington rappelle aussi ses leviers sur Bagdad, notamment via le contrôle d'une partie des revenus pétroliers, et dit se réserver ses décisions vis-à-vis du prochain gouvernement. L'Algérie a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger après une émission de France 2 sur la crise diplomatique entre les deux pays. Le ministère algérien dénonce un tissu de contre-vérité et une agression contre l'État algérien, ses institutions et ses symboles. Alger met aussi en cause l'ambassadeur Stéphane Romaté sur fond de tensions persistantes depuis l'été 2024, notamment après le soutien de Paris au plan marocain d'autonomie au Sahara occidental. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est attendu à Rabat dès ce lundi pour la grande commission mixte et un forum économique malgré les tensions entre supporters après la finale de la CAN. Au Maroc, 18 supporters sénégalais sont en détention provisoire et poursuivis pour hooliganisme. Leur procès est renvoyé au 29 janvier. Rabat et Dakar insistent sur la solidité des liens bilatéraux, le roi Mohamed VI appelant à dépasser les incidents, tandis que Sonko veut dépassionner l'épisode. En France, le procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty s'est ouvert à Paris pour 4 condamnés jugés jusqu'au 27 février. 2 proches de l'auteur des faits sont rejugés pour complicité d'assassinat et 2 autres pour association de malfaiteurs terroristes accusés d'avoir alimenté la campagne de haine. Samuel Paty avait été tué le 16 octobre 2020 après des accusations relayées en ligne. En première instance, instance, tous les accusés avaient été condamnés à des peines allant jusqu'à 16 ans. La France se rapproche d'une interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Les députés doivent voter aujourd'hui un texte soutenu par le gouvernement et Emmanuel Macron. Le calendrier évoqué prévoit un passage au Sénat mi-février et une entrée en vigueur dès le 1er septembre avec un délai ensuite pour désactiver les comptes non conformes. C'est la fin de ce point de l'actualité. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Place à présent au dossier du jour. En France, près d'une agence immobilière sur deux accepte ou facilite une discrimination raciale dans l'accès au logement. C'est le résultat d'un testing mené auprès de plusieurs dizaines d'agences et dévoilé par SOS Racisme. Le point avec vous, François-Xavier de Calonne.
Oui, l'association est coutumière de ce type de campagne. Il s'agit de la troisième sur le sujet après de précédentes enquêtes en 2019 et 2022. Or, celle-ci a été réalisée en 2025. SOS Racisme a contacté 198 agences immobilières qui appartiennent à de grandes enseignes et au réseau de la Fédération nationale de l'immobilier. Le rapport souligne que sur les 198 agences, eh bien, près d'une sur deux ont accepté soit de discriminer en sélectionnant elles-mêmes les locataires sur la base d'un critère racial, soit d'être complice de discriminations qui ont permis ou encouragé que le propriétaire fasse cette sélection. Au total, 102 agences ont refusé de discriminer et ont clairement affirmé leur opposition à toute sélection fondée sur l'origine. L'association dont vous allez entendre la directrice juridique, Zélie Errand, estime que cette étude met en évidence une inquiétante permanence de pratiques discriminatoires pourtant prohibées par le droit pénal. Des pratiques dénoncées par le gouvernement. La ministre déléguée chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, rappelle que la discrimination est illégale et affirme que le rapport de SOS Racisme montre que le chemin est encore long. La ministre a annoncé la mise en place d'une formation obligatoire sur les discriminations pour tous les agents immobiliers. Actuellement, une formation est obligatoire, mais uniquement pour les détenteurs d'une carte professionnelle, soit moins de la moitié des agents. La ministre qui assure qu'un décret sera signé dans les toutes prochaines semaines avec le ministre du Logement. La réaction de Zélie Errand, la responsable du pôle juridique de SOS Racisme.
Pour nous, c'est une victoire pour l'association parce que, en effet, il y avait, c'est une avancée, il y avait un trou dans la raquette parce que c'était uniquement pour les agents qui avaient des cartes professionnelles. Donc là, on va voir qu'il y aura donc des centaines de milliers de personnes qui seront formées et qui devront être formées. Parce que, en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on voyait qu'il y avait une minorité en fait des personnes qui travaillaient dans les agences immobilières qui étaient formées donc même si on est vraiment on salue cette avancée et on continuera nous à évaluer en fait l'impact aussi de ces formations en refaisant des testings et on pense aussi que c'est pas tout ce qu'il faut faire. On pense aussi qu'il faut mettre en place d'autres sanctions et d'autres obligation de prévention, par exemple une obligation d'information des utilisateurs quand ils sont sur des sites internet ou alors imposer aux professionnels de l'immobilier une obligation d'information des propriétaires sur le droit à non-discrimination. Et ensuite, en termes de sanctions, parce que c'est bien beau de faire des testings et de mettre en lumière ces discriminations, mais il faut surtout en fait mettre en place des actions pour éradiquer ces discriminations.
Donc, justement, aujourd'hui, que risquent les agences qui pratiquent ce type de discrimination ?
Alors, aujourd'hui, donc, la discrimination, donc, comme vous l'avez rappelé et comme ça avait été rappelé par la ministre, aujourd'hui, la discrimination, elle est interdite par le code pénal les personnes, donc les agences ou les personnes qui commettent des discriminations, ça peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Dans les faits, est-ce qu'il y a des exemples de personnes condamnées à de telles peines ou alors ces peines sont rarement mises en œuvre ?
Ces peines sont très rarement mises en œuvre. C'est aussi pour ça que c'est important, pas seulement de faire des testings, mais ensuite de mettre en place une vraie politique pénale ferme. Pour exemple, on a le rapport 2024 de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui portait sur l'année 2023, qui énonce bien que sur 656 personnes mises en cause pour des faits de discrimination, il y a eu seulement 5 condamnations prononcées par les juridictions pénales. Nous, c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement, donc même avec des preuves, même avec un testing réalisé, les personnes voient souvent leur plainte classée sans suite, ou alors s'il y a une procédure, il y a très très peu de condamnations et les dommages intérêts sont très faibles et les amendes sont très faibles également.
Et vous l'avez dit, vous demandez de nouvelles sanctions, lesquelles ?
Alors nous, ce qu'on propose et ce qu'on aimerait voir mis en place, on aimerait qu'il y ait un renforcement des sanctions pénales en cas de discrimination sur le modèle des sanctions pour le logement insalubre, la mise en place d'un ordre disciplinaire comme garantie de la rigueur et du sérieux de la communauté professionnelle. On voudrait aussi qu'il y ait la mise en œuvre d'une politique pénale ferme et adaptée pour lutter contre les discriminations au logement. Et enfin, on aimerait élaborer un guide méthodologique à destination des enquêteurs et des magistrats qui serait consacré à la caractérisation, l'investigation et le traitement judiciaire des discriminations raciales. Et donc, ça, ce serait aussi pour les victimes qui pourraient en fait mobiliser ce guide pour constituer leur dossier.
Zélie Errant, responsable juridique de SOS Racisme, au micro de François-Xavier de Calonne. Elle sera l'invitée de Grand Angle ce soir après le flash de 18h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anis, à la réalisation. Excellente suite de programme à l'écoute de Radio Orient.